chers amis, cet après-midi parmi nous pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et après tout, de bonnes nouvelles, il n'y en a pas tellement. Hein ? Les médias, les radios, télé, journaux nous annoncent toute une série de catastrophes, bien souvent. Que voulez-vous ? Ça, c'est la vie dans le monde. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Puisque l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Voilà, on va lire un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 7. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus de vous. De vous regarder les yeux dans les yeux. Jean, chapitre 7, et le verset 37. Voilà, c'est Jésus qui s'exprime ainsi. Jean, chapitre 7, verset 37. Il est dit ceci, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son cœur, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Ainsi donc s'exprimait le Seigneur, si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien Jésus veut dire par là qu'il y a des, dans le cœur, dans l'âme humaine, la vôtre, la mienne, des aspirations profondes, des soifs intérieures, voyez, qu'il est le seul à pouvoir satisfaire. Mais pas la soif que l'on peut désaltérer avec un verre d'eau, mais c'est une soif de l'âme. C'est une soif ou des soifs, parce qu'il y en a plusieurs, nous allons en examiner quelques-unes, qui concernent notre être moral, notre être spirituel. Parce que je pense que vous avez compris que nous ne sommes pas simplement un tube digestif, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas simplement eh bien, un amas de cellules, un organisme biologique, mais nous sommes aussi des êtres moraux et spirituels. Et cet être moral et spirituel qui constitue ce que nous sommes, et c'est finalement ce qu'il y a le plus important, eh bien, peut connaître des aspirations et connaît des aspirations profondes intense. Alors je voudrais, cet après-midi, évoquer quelques-unes de ce que nous pourrons appeler donc ces soifs de l'âme. D'abord, eh bien nous parlerons de la soif de vérité. Hein ? Un homme célèbre, tristement célèbre, puisque c'est lui qui a condamné Jésus à mort en dernier lieu, Pilate, le gouverneur romain, poser cette question, certainement il l'a posée d'une manière désabusée. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Il y a 20 ans, 2000 ans, pardon, qu'il a posé cette question, et on en est toujours là, on se pose toujours la question. Alors aujourd'hui, on veut nous dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout est relatif et que chacun, au fond, est libre de fabriquer sa petite vérité à soi. Il est vrai que toutes les idéologies humaines se sont révélées décevantes, que ce soit dans le domaine philosophique, politique et même religieux. Mais Jésus est très affirmatif et dans la Bible, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Non pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité d'une manière absolue, d'une manière totale et entière. Il est effectivement la vérité incarnée, révélée. Et sa mission, justement, est de nous révéler, de nous faire connaître la vérité. Alors, quelle est cette vérité que Jésus est chargé par Dieu son Père de venir nous révéler ? La vérité, chers amis, que l'Évangile nous présente, c'est que l'être humain, l'homme, la femme, vous, moi, l'homme est un pécheur. il est en situation d'échec complet sur le plan moral et spirituel. Le mal, le péché, le domine. Vous savez, la signification, tout au moins l'une des significations du mot péché, c'est manquer le but, passer à côté, comme un archer maladroit qui raterait la cible. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, nous les humains. Nous avons manqué de but. Nous sommes passés à côté du but que Dieu nous a fixé, à savoir observer ses commandements. Et c'est vrai, le mal, le péché nous domine avec ses conséquences. Et si nous sommes un petit peu honnêtes, nous sommes bien obligés de dire bien souvent, comme l'a dit un homme de la Bible, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et de ce fait, du fait du péché qui nous a tous marqués, que nous avons tous commis, chacun à notre manière, nous sommes passibles du jugement, de la condamnation et de ses conséquences ultimes, l'enfer et ses tourments. Mais la vérité ne s'arrête pas là. La vérité, c'est que Dieu nous aime aussi. Alléluia. Et qu'il veut nous sauver. Il veut nous arracher à notre triste état, notre triste condition de pécheur. Jésus est la solution au problème du péché. Lorsqu'il est né dans la crèche de Bethléem, dans quelques semaines on va fêter Noël, les anges ont dit à ces bergers dans la nuit là, auxquels ils sont apparus, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. » Nous vous annonçons une bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Oui, mes amis, Jésus veut être votre sauveur. L'apôtre Paul écrira, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Si vous pensez faire partie de ces braves gens qui prétendent n'avoir rien à se reprocher, alors l'évangile n'est pas pour vous. Mais si vous vous sentez concerné, impliqué dans cette vérité, que l'être humain est un pécheur et que donc vous l'êtes vous-même, alors Jésus vous tend la main et il veut vous faire grâce. Et vous pardonner, comme il l'a fait pour nous, quelle que soit la mesure des fautes que vous auriez pu commettre jusque-là. Et puis, dans le cœur de l'homme, il y a aussi la soif de certitude. En particulier, certitude quant à notre destinée éternelle. Permettez-moi, ne cherchez pas, de vous lire un texte qui a été rédigé par l'apôtre Jean, l'un des apôtres de Christ, lorsqu'il s'adressait à ses lecteurs, donc, il dit ceci, « Je vous écris ces choses », il s'adresse à des chrétiens convaincus, bien sûr, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle. Il est possible, voyez, de posséder une certitude inébranlable quant à notre salut. Bien souvent, il m'est arrivé d'entrer en discussion, d'avoir un débat avec des gens religieux, de toute obédience d'ailleurs. Et puis les arguments sont d'un côté, les arguments sont de l'autre. Mais pour couper court, parce qu'il faut bien s'arrêter un moment, j'ai souvent posé cette question qui me semble être essentielle. Madame, monsieur, avez-vous l'assurance de posséder la vie éternelle? C'est-à-dire, s'il vous arrive là, de mourir sur le champ, où irez-vous? Au ciel ou ailleurs? Et le plus souvent, eh bien, les gens m'ont répondu, je ne sais pas. En dépit de mes pratiques religieuses, en dépit des sacrements que j'ai pu recevoir, en dépit de toutes les cérémonies auxquelles j'ai pu participer, je n'ai aucune assurance, aucune certitude. Mais là, dans le texte que nous avons lu, eh bien, l'apôtre Jean nous dit que si nous croyons, ce qui s'appelle croire au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus, nous pouvons être en possession, non pas d'un espoir, mais d'une certitude. D'une certitude. C'est vrai que la religion ne peut pas nous communiquer une telle certitude, parce que son action se limite souvent à des œuvres, des sacrements, je l'ai déjà dit, des cérémonies, des traditions extérieures, qui ne nous procure aucune assurance. Tandis que la vraie foi, la foi que l'on met dans la personne du Christ, la personne de Jésus, La vraie foi, nous dit la Bible, est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une ferme assurance. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur que vous, mais je peux dire en toute sérénité, je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis en route vers le ciel. Et, qu'ai-je donc fait pour cela? Rien. C'est Christ qui a fait pour moi. Alléluia. Je n'ai fait que mettre mon espoir, ma foi, ma confiance en sa personne, et il m'a fait grâce. Et si vous mettez de même, comme beaucoup parmi nous l'ont déjà fait, votre foi dans la personne de Jésus, vous obtiendrez la même grâce, la même certitude, et vous direz maintenant, je suis en possession de la vie éternelle. Je le sais, j'y crois dur comme fer, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis devenu un enfant de Dieu. On pourrait parler encore, voulez-vous, de la soif du bonheur. Je suis sûr que vous cherchez le bonheur. Tout le monde le cherche, non? Chacun, à notre manière, nous sommes en quête du bonheur. Pas vrai? Ah oui? Mais il semble si souvent nous échapper, comme un mirage qui s'évapore, comme un rêve inaccessible. Un homme de la Bible a écrit il y a bien longtemps quelque chose à ce sujet. C'est celui qui a rédigé ce psaume, le psaume numéro 4. Il dira ceci, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Vous voyez, c'est une question éternelle ça. Qui nous fera voir éternel le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Alors, il répond, parce qu'il a vécu une expérience spirituelle forte, cet homme-là, et il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Vous voyez, cet homme, il a trouvé un secret, a découvert un secret. Un secret que nous ferions bien de découvrir. C'est que le bonheur ne consiste pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Une erreur majeure, particulièrement de notre civilisation occidentale, c'est de penser que le bonheur provient de l'abondance matérielle. N'est pas vrai? Si j'ai une plus grosse voiture, Mercedes à la place de ma 4 chevaux, je serai plus heureux. Si j'ai, au lieu de mon HLM, une villa conçu, je serai plus heureux. Si je possède un ordinateur plus performant, un téléphone avec plus de possibilités que celui que j'ai jusqu'à présent, je serai plus heureux. Mais ça, ce sont des gadgets. Ce sont des appâts qui prétendent nous procurer le bonheur et un moment d'excitation. Après, passé, tout redevient comme avant. C'est pas vrai? Eh oui, c'est comme ça. Non. Un petit chant que nous chantions autrefois, que nous ferions bien de chanter à nouveau, dans nos églises, disait, si tu veux le bonheur, mais le vrai bonheur, c'est-à-dire pas un bonheur illusoire, pas cette poudre aux yeux que le monde te vend, que le marketing te propose, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Voyez, Jésus est la source du bonheur. Êtes-vous en quête de bonheur? Aspirez-vous à quelque chose de plus authentique, plus pur, plus vrai, plus réel, plus sérieux. Le bonheur, quoi. Alors vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Sinon, votre quête restera stérile, comme elle l'a été jusqu'à présent. Et c'est, écoutez ce que Jésus a dit à ce sujet dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, au verset 28. Laissez-moi vous lire ce texte que souvent nous évoquons dans nos réunions, mais qui est tellement capital. Jésus dit, venez à moi, voyez, pas un système religieux. Il dit pas, voilà, récitez 3 Ave, 2 Pater, puis ça ira comme ça. Faites une génuflexion, un signe de croix et tout va s'arranger. Mettez un talisman, une mémoire, une médaille de Saint-Christophe ou d'un autre sur la poitrine et ça ira. Non, il dit, venez à moi, ayez une démarche spirituelle personnelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui n'en pouvez plus, parce que vous avez erré de toutes parts, vous avez essayé ici et là de connaître, de découvrir, de rencontrer le vrai bonheur, vous n'y êtes pas parvenu. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Tu trouves pas que c'est formidable, ces paroles? Il y a des gens qui pensent que être chrétien, c'est être asservi, dominé par un maître implacable. Dieu serait une espèce de tyran qui nous suivrait à la trace, nous adressant constamment reproche sur reproche et ne nous passant aucune incartade. Mais c'est pas ça, là. Écoutez Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes au bout du rouleau, quoi. Je le traduis en des termes actuels. Qui n'en pouvez plus, qui tournez en rond dans votre propre vie, et je vous donnerai du repos. Il y a certainement au milieu de nous cet après-midi quelqu'un qui a besoin de goûter ce repos de l'âme, ce repos du cœur. Vous savez, faut croire quand même, faut croire que particulièrement les Français ont besoin de repos parce que nous sommes les champions, toutes catégories pour une fois qu'on est champion, dans la consommation des antidépresseurs, des calmants et des somnifères de toutes sortes. Ce n'est pas que ce soit interdit. Bien sûr que quand on a un problème de ce côté-là, c'est légitime de se soigner. Mais ça montre quand même qu'il y a une souffrance, qu'il y a une soif de l'âme qui n'est pas satisfaite et que les gens sont à la recherche du repos, de quelque chose qui va les apaiser, les dégager, les soulager. Eh bien, mes amis, écoutez Jésus qui dit « Venez à moi ». Et ce repos, ce bonheur, notre définition, que vous cherchez, auquel vous aspirez légitimement, moi, Jésus, je vous le donnerai. La soif de bonheur. On pourrait parler aussi de la soif de sécurité ou la paix. La sécurité, la paix, c'est à peu près la même chose. Voici ce que un homme a écrit à ce sujet. C'était le roi David. Hein, l'histoire a retenu son nom. David et Goliath, on a tous entendu parler de ça, mais il n'a pas fait que casser la tête aux géants. David, c'était un merveilleux compositeur, auteur, inspiré par le Saint-Esprit, et il a écrit des choses formidables. Et notamment, il dit ceci. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Quand il est à ma droite, c'est-à-dire quand il est à côté de moi, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire, David? Il exprime là sa conviction qu'il ne sera pas abandonné définitivement au fond d'une tombe, mais qu'un jour, Dieu le ressuscitera et lui donnera ainsi en partage la vie éternelle. Vous savez, quand on sait ça, eh bien, la crainte qu'inspire la mort est évacuée. Alléluia! Oh, il y a des gens qui se disent, moi, j'ai pas peur de la mort. Attendez. Qu'elle vienne un petit peu tourner autour de vous et vous m'en direz des nouvelles. Hein? Eh oui. Mais quand on a cette certitude que si nous mettons notre foi en Christ, notre corps même ne sera pas abandonné définitivement au fond d'une tombe, alors la mort cesse d'être un sujet de terreur et d'épouvante. Et vous savez, à cet égard, la foi chrétienne offre une garantie absolue. J'ai approché des croyants qui étaient sur le point de partir. Et ces croyants-là authentiques, je les ai vus s'en aller avec une paix parfaite. La crainte était évacuée. Pourtant, ce n'étaient pas des gens exceptionnels, avec une force de caractère particulière, avec un courage extraordinaire. Non, des gens ordinaires comme vous et moi. Mais la grâce de Dieu avait pénétré leur vie. Et ils savaient que, par-delà la mort, le Seigneur leur avait préparé une place auprès de lui et qu'ils n'avaient rien à craindre. Sachez que Christ a donné sa vie pour que la mort soit vaincue. Alléluia. Et que, comme dit la Bible, soit mise en évidence la vie et l'immortalité. Eh oui, l'Écriture dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Par la foi en lui, il nous donne la possibilité de participer à sa victoire sur la mort. Un jour, nous dit la Bible, Jésus reviendra. Eh oui, c'est l'espérance du croyant, c'est la promesse formelle qu'il a faite dans les Saintes Écritures. À ses disciples, désolés de le voir partir, il dira, mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que se passera-t-il quand Jésus reviendra? Oh, toute une série d'événements, mais notamment, la Bible nous affirme dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, que quand Christ reviendra, les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui, de leur vivant, auront été ses fidèles disciples, ressusciteront, alléluia, et ils partiront avec lui à sa rencontre, dans le ciel, ressusciteront, non pas avec un corps comme nous l'avons aujourd'hui, qui est accessible, hélas, à la maladie, à la souffrance, à la fatigue, au vieillissement, mais avec des corps glorifiés qui pourront vivre sans fin. Je sais que la médecine a fait de grands progrès, et c'est heureux. Je sais que l'espérance de vie ne cesse dans nos pays occidentaux, en tout cas, de s'allonger, mais quand même, il y a toujours un terme. Là, en Avignon, dans l'église évangélique où nous avons avec mon épouse servi le Seigneur, il y a une chrétienne qui, ces jours-ci, tiens, va fêter ses 101 ans. Bon, c'est bien. En plus, elle est en pleine forme. Mais elle ne va pas vivre 100 ans de plus. Hein. Eh oui, il y a toujours un moment, même si on retarde l'échéance, où il faut partir. Mais là, mes amis, question de vie éternelle, sans fin, d'entrée avec Dieu dans l'éternité, de partager en quelque sorte l'éternité avec lui. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Il y a la soif aussi de liberté. Ah. Vous avez remarqué que ce mot, ce slogan, on le met à toutes les sauces. Hein. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on ne nous a pas claironné sur tous les temps, liberté, liberté? En 1968, j'étais encore un gamin, on a parlé de la libération des mœurs. Wow. On a fait sauter le carcan, on a fait sauter les tabous, les vieux principes, paraît-il, que l'on avait imposés, n'est-ce pas, dans notre société française. Maintenant, on est libre. D'ailleurs, il était interdit d'interdire, hein. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a assisté à l'explosion du nombre de divorces. On parle aujourd'hui de familles recomposées. Je ne sais pas si ce n'est pas souvent des familles décomposées. On parle de familles monoparentales. Ça se réduit le plus souvent à une maman qui élève toute seule ses gosses. On parle de refus de la famille traditionnelle. Alors, récemment, dans notre pays, on a officialisé la possibilité du mariage gay. Et sans faire de jeu de mots, c'est pas gay du tout. On a ouvert la porte à l'avortement. Au début, nous disait-on, c'était pour pallier à des situations de détresse extrême. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, mes amis, c'est devenu un moyen de contraception comme le nôtre. J'ai pas envie, alors je fais passer le bébé. Ça, c'est la liberté que le monde nous promet. Mais à tout cela, il y a des dommages collatéraux. Des enfants, des adultes, déboussolés, traumatisés, des cœurs brisés, des tentatives, et hélas, des réussites de plus en plus nombreuses de suicides, notamment parmi les jeunes. Il y a plus de jeunes qui meurent par suicide que par accident de la route. C'est un drame, ça. Ah, mais liberté, d'ailleurs, c'est le slogan, la formule de notre République française. Liberté, égalité, fraternité. Vous savez, quand Jésus a parlé de liberté, les contemporains du Christ ont dit « Ah, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne !» Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Beaucoup disent « Je suis libre !»« Je fais ce que je veux !» Ah oui ? Alors Jésus leur a répliqué « Mais celui qui se livre au péché, au mal, il est l'esclave du péché. » On peut être esclave de soi-même. C'est le pire des esclavages. Esclave de ses passions et ses vices. Esclave de sa violence, de sa haine. Esclave de sa jalousie. Esclave de la drogue, de l'alcool, du tabac. D'un tas de choses qui nous dominent esclaves. Quand on est esclave, on n'est pas libre. Non, on ne fait pas ce que je veux. On fait ce que le mal te commande de faire. Et tu ne peux plus y renoncer. Mais après avoir dit « Celui qui se livre au péché est esclave du péché », Jésus a ajouté « Mais si le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui-même, vous libère, vous deviendrez réellement libre. » Alléluia. Il y en a beaucoup au milieu de nous qui pourraient dire « C'est vrai, je confirme. » Il y a là des hommes, des femmes peut-être, qui autrefois s'adonnaient à la drogue, à l'alcool, à la violence, à toutes sortes d'excès. Et non, ils n'étaient pas libres, esclaves de même. Mais en entendant l'évangile et en disant « Seigneur, j'en peux plus, sors-moi de là !» Ils sont parvenus à la vraie liberté, gloire à Dieu. Et le Seigneur leur a rendu leur dignité. C'est aussi une expérience que vous pouvez faire. Jésus n'est pas là pour nous accabler, pour nous faire de véhéments reproches. Il nous tend la main. Quelle que soit la mesure de notre misère, quelle que soit, n'est-ce pas, la situation sinistre dans laquelle nous pouvons être sur le plan moral et spirituel. J'ai un ami, un collègue qui prêche l'évangile. Oh, après avoir pour la première fois de sa vie fait monter vers le Seigneur une vraie prière, alors justement qu'il était un toxicomane, il s'est aperçu au bout de 3 jours qu'il n'avait plus touché à un joint. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'étais dépendant de ça, je ne pouvais pas subsister, vivre sans ça. Et maintenant, sans m'en rendre compte, sans souffrir de manque, aucunement, eh bien, je n'ai plus envie, j'en ai plus besoin. Je ne me suis même pas aperçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est passé par là. Si le Fils vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Alors, ce n'est pas que tout pour les toxicos, ça, hein? Vous savez, il y a parfois des habitudes mauvaises dans notre vie, plus insidieuses. Ça se voit moins, ça se repère moins, c'est moins grossier que l'alcool ou la drogue. Mais c'est tout aussi problématique. Si dans votre vie, il y a de mauvaises habitudes que vous aimeriez vaincre et que vous ne pouvez pas vaincre en dépit de vos efforts, de votre bonne volonté, faites appel à Jésus. Allez, tentez le coup. Tout à l'heure, là, on va prier. N'essayez pas de vous remémorer une prière que vous avez apprise dans votre enfance, mais parlez à Jésus comme on parle à un ami. Dites-lui, Seigneur, je voudrais en sortir de cette affaire. Délivre-moi. Cet homme-là qui a prêché l'évangile, il a parlé de liberté. Donne-moi la liberté. J'ai soif de liberté. Et il répondra à cette prière. Et comme l'ami dont je parlais tout à l'heure, vous en serez le premier étonné. Vous ferez cette découverte que Jésus vous a libéré. Je terminerai en parlant de la soif d'amour. On en a tous besoin d'amour, trouvez pas? On en a tous besoin. Et que de déceptions dans ce domaine. Certains n'y croient plus, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été trompés, parce qu'on s'est moqué d'eux. Il y a un schéma illusoire qui consiste à dire, à nous faire croire tout au moins, que amour égale plaisir et que plaisir égale amour. Mais ce n'est pas vrai. Un jour, un chrétien, sur son lieu de travail, il y avait un gars qui, un de ses collègues, qui se vantait d'aimer sa femme. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Alors, ce chrétien qui n'avait pas sa langue dans sa poche, lui a dit, c'est pas vrai. Et je crois qu'il l'a dit devant tous. Il lui a dit, tu aimes le plaisir qu'elle te donne. Oh, l'autre était furieux. Mais enfin, ça l'a fait réfléchir. Et quelques jours après, il est venu le trouver, il lui a dit, tu sais, ce que tu as dit, ça m'a fait réfléchir. Et au fond, c'est vrai. C'est vrai. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est ça, le plaisir c'est l'amour. Cette notion est véhiculée par les médias, par les romans, par les séries télé de Katsu, par les sites de rencontres, etc. Non, mes amis, il y a quelque chose de légitime, certes, à vouloir à la fois être aimé et aimé. Nous sommes créés comme ça. Mais vous savez, la Bible dit par ailleurs que Dieu est amour. Et cet amour, Dieu ne s'est pas contenté de l'affirmer, il l'a prouvé. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, pécheur, j'y reviens, du fait de mon péché, je mérite une sanction. Une punition, un châtiment. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort dans son sens physique, mais la mort dans son sens spirituel, éternel. L'enfer et ses tourments, même si vous n'y croyez pas, c'est une réalité. Et pour m'épargner ce triste sort, ce tragique sort, Christ est venu. Et lui, ayant vécu sans péché, il a pris à sa charge mon péché. Et le vôtre aussi. Et mourant sur la croix, il a choisi de subir le châtiment que nous méritions. Il est mort pour nous. Ça, c'est un amour absolu, voyez. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Cet amour, nous l'avons trouvé en Dieu, et de la même manière que nous l'avons trouvé, il est capable de le répandre sur votre vie. Alors, nous arrivons au terme de notre réflexion, et permettez-moi de citer à nouveau le verset qu'on a lu en introduction. « Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Oh, venez à lui dans un élan de foi et de repentance. Ce Jésus dont vous entendez parler, ce n'est pas simplement une idée, un principe, une philosophie. Ce n'est même pas une religion. Jésus, c'est une personne vivante, réelle, authentiquement. Et ce Jésus, vous savez quoi? Il est là cet après-midi. Comment vous le savez? Parce qu'il l'a promis. Il a dit dans sa parole, dans la Bible, là où deux ou trois, on n'est pas très nombreux, mais on ne peut plus que deux ou trois. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis, par mon esprit, au milieu d'eux. Et quand Jésus est présent quelque part, il n'y est pas un simple spectateur, auditeur, mais il y est un acteur. Nous, nous sommes ses messagers, ses témoins, rien de plus. Et c'est lui qui agit dans la vie de ceux qui se confient en lui. Des millions de gens dans le monde, un jour, ont entendu l'évangile comme vous l'entendez, vous, aujourd'hui. Et après avoir entendu l'évangile, là, dans le fond de leur cœur, peut-être silencieusement, mais avec ferveur et vérité en tout cas, ont invoqué son nom en disant, « Jésus, sauve-moi, fais quelque chose pour moi. » Et ça a marché. Quelque chose s'est passé. Leur vie a été transformée, bouleversée, métamorphosée. Pas par un coup de baguette magique, mais par la grâce et l'amour de Dieu. Cette expérience, vous pouvez la vivre vous aussi. cet après-midi, voulez-vous invoquer le nom de Jésus? Je ne sais pas en quelle mesure vous avez pu être concerné. Peut-être avez-vous soif de vérité. C'est ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle. Peut-être avez-vous soif de certitude ou soif de bonheur. Et vous êtes à la recherche et vous ne le trouvez pas. Soif de sécurité, parce que peut-être, je ne sais pas, la mort vous fait peur. Soif de liberté, parce que vous vous rendez bien compte que, finalement, contrairement aux affirmations, vous ne faites pas ce que vous voulez, mais ce que le mal qui vous domine vous oblige à faire. Soif d'amour, il y a peut-être des gens qui manquent d'amour. Vous n'avez pas connu l'amour de vos propres parents. Peut-être un ami, un être cher, un conjoint vous a abandonné, vous a méprisé, vous a rejeté, il est parti pour une autre femme ou pour un autre homme, et votre cœur est brisé, soif d'amour. Venez à Jésus tel que vous êtes. Dites-lui, Seigneur, tout ce que j'entends là, ça m'étonne, ça m'interpelle. J'arrive pas trop à y croire, mais si tout ça est vrai, alors je fais appel à toi, Jésus, sauve-moi. Et mes amis, si ainsi de tout votre cœur, vous vous adressez à lui, quelque chose va se passer, immanquablement, parce que Dieu est bon, il vous connaît, il vous aime, il veut pour vous le meilleur. Ce n'est pas une religion qu'on essaie de vous vendre. On n'est pas là comme des camelots de foire à essayer de vous vendre notre produit en essayant de vous persuader que c'est le meilleur. Non, mes amis, ce n'est pas du marketing évangélique, c'est une offre de la grâce de Dieu. Un jour, nous avons fait cette expérience, nous aussi. Après avoir entendu l'évangile, nous avons dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi, vraiment. Vraiment, j'ai besoin de toi, je fais appel à toi. Et il est intervenu, et nos plus grandes espérances ont été surpassées. C'est bon d'avoir le Seigneur de notre côté. Il fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire que nous planons au-dessus des difficultés de l'existence, que, n'est-ce pas, rien ne nous atteint. Mais ça veut dire que même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de notre vie, et Dieu sait qu'il y en a, eh bien, il est là. Et sa présence change tout. Voulez-vous qu'il soit avec vous, pour vous ? Va se recueillir quelques instants. Je vous demande de courber votre front respectueusement et même de fermer vos yeux. Et ensemble, nous allons nous adresser à ce Jésus dont nous avons tant parlé, à ce Jésus qui est présent parmi nous cet après-midi, lui demandant d'agir, de consoler les cœurs brisés, de guérir ceux qui ont été blessés, meurtris par la vie, de pardonner les pécheurs, de donner la vraie liberté à ceux qui ne le sont pas libres, et de faire du bien de mille et une manières, d'étancher la soif de l'âme, d'étancher la soif du cœur. Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi et nous avons conscience que nous nous adressons à un sauveur vivant. Oui, il est mort sur la croix, mais les choses n'en sont pas restées là. 3 jours après, il est ressuscité. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, ce Jésus dont nous parlons. Et nous te prions, cher sauveur, d'agir dans la vie de ceux qui sont parmi nous cet après-midi. Il y a là des hommes, des femmes qui ont besoin de toi. Et tu leur dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu leur dis, celui qui a soif, soif là dans son âme, dans son cœur, qu'il vienne à moi, non pas un système religieux, mais à Jésus, et qu'il boive, qu'il mette sa foi en moi. Et son âme sera désaltérée, comblée, satisfaite. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Alléluia. Voilà, restons recueillis quelques instants.